C'est une collection impressionnante. Vous avez ici quelques éditions extrêmement rares.
Sa bibliothèque était tout son univers.
Je comprends ça.
Vous êtes un privilégié. Il arrive à bien peu de gens d'entrer ici. C'est ma collection privée. Certains bibliophiles collectionnent les romans du 19e, d'autres les livres d'heures. Toutes mes éditions rares, elles, ont le même protagoniste. Le diable.
Je peux jeter un coup d'œil?
Oui. C'est pour ça que je vous ai amené ici. Magnifique, n'est-ce pas? Cette tendre patine, ces superbes dorures. Sans parler des siècles de sagesse qu'ils contiennent, je connais des gens qui tueraient pour une collection comme celle-là. Vous ne verrez nulle part au monde autant d'ouvrages sur le sujet que j'en ai réunis ici. Ce sont les plus rares, les plus choisis des éditions qui existent, et il m'aura fallu une vie entière pour les rassembler. Seul le suprême chef-d'œuvre manquait. Venez.
À quoi travailles-tu?
Je cherche des explications qui ne se trouvent apparemment pas dans les bouquins que j'ai ici.
Des explications? Que veux-tu savoir?
Ce qui se passe au fond de l'océan.
J'aimerais bien savoir comment tout cela est arrivé. Oui, moi aussi.
Il se passe des choses bizarres ici depuis quelque temps.
Ouais, je suis bien de ton avis. Je dirais qu'un météore est tombé sur le canot.
Peut-être que Turner a raison. Peut-être que ce sont les travaux dans les fonds marins qui sont responsables de tout cela.
Ah, je suis prêt à parier que la société Trojan a employé la haute fréquence bien au-delà de ce qui est permis. Et il apparaît d'une manière évidente que la faune sous-marine est très perturbée.
Oh. Ça nous explique les poissons morts. Ça n'explique pas l'état du canot. Qu'est-ce qui est arrivé?
Ça doit être un céphalopode gigantesque. Il ne peut s'agir que de ça.
Tu croyais que tu pensais au requin?
Non. À une pieuvre. Un grand octopus.
Si tu veux mon avis, la pieuvre ne reviendra plus dans son repère.
Quel est notre but sur Terre?
Tu paries?
Ben voyons, je ne t'apprendrai rien si je te dis que les pieuvres sentent le danger. Elle n'en reviendra pas.
Oui, mais celle-ci est particulière. La nôtre a attaqué l'homme. Elle se croit la plus forte. Elle va l'attaquer à nouveau.
C'est un animal. Elle n'aurait probablement jamais tué si elle-même n'avait pas été agressée. Et comment te diront-ils que la pieuvre est là?
Ne t'en fais pas. Je crois t'avoir dit il y a un bout de temps que leur cerveau ressemblait au nôtre, aussi gros et aussi développé que le nôtre. Et ils sont en contact avec deux mondes différents. Un, l'air qu'ils respirent. De l'eau, la mer où ils sont nés, et où se trouve leur nourriture, et où se trouve leur ennemi.
Je comprends
maintenant
rien.
Mon ennemi.
Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi.
Prêt?
On a enfin fait connaissance. Je sais ce que c'est.
Ça veut dire quoi? Pas besoin d'un interprète pour savoir ce que ça signifie.
Je suis pas certaine qu'il sache faire la différence entre une arme et un outil.
Est-ce que tu rêves dans leur langue?
Bonjour, bonsoir, salutations à toutes et tous, c'est Bouquin Bouquine, l'émission des livres et de ceux qui les dévorent. C'est Flo derrière le micro, et c'est une émission à retrouver chaque dernier mardi du mois, 22h, sur Graffiti. Puis, c'est aussi à suivre et à retrouver partout sur Internet avec d'abord les podcasts, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, Castopod, Deezer, Spotify, Apple Podcasts ou Podcast Addict. mais aussi sur les réseaux avec la page Facebook, et pour me follow, c'est sur Twitter X et de plus en plus sur Blue Sky. Venez donc nous rejoindre. Le plus simple, vous tapotez sur votre clavier bouquin bouquine sur votre barre de recherche et vous trouverez. Bonne écoute. J'avais très envie de lire et découvrir le roman que je vais vous présenter. J'avais vu sa magnifique couverture bleue et cette pieuvre, illustrée par Nicolas Fructus, popée sur les écrans de contrôle de mon laboratoire sonore. Et zou, le jour de sa sortie, à la fin de ce mois d'octobre, me voilà parti pour ma librairie préférée. La montagne dans la mer, de Ray Naylor, aux éditions Le Bélial. Un roman entre science-fiction, cyberpunk, futuriste, c'est certain, presque hard science. Je ne sais plus comment finir ni cette phrase, ni cette description. Mais pour être précis, pour être concis, j'ai fait appel à du renfort. Je vais vous lire la chronique de l'excellent blog Just a Word sur justaword.fr. Just a Word, comme ça s'écrit, comme ça se prononce, en un seul mot.fr. À retrouver également sur X et sur Blue Sky. N'hésitez pas à y jeter un œil pour explorer ce qui se fait de mieux en littérature de l'imaginaire. Je remercie l'auteur du blog ici pour avoir répondu favorablement à mon SOS, message lancé comme une bouteille à la mer. Mais avant cette note de blog, la quatrième de couverture. Ray Naylor, la montagne dans la mer. Un mystère gît dans les hauts fonds de l'archipel de Can Dao. Pour les Vietnamiens, des environs, ce sont des monstres assassins. Pour Dianima, multinationale spécialisée en bio-ingénierie et en intelligence artificielle, il s'agit d'une opportunité sans égale. Pour ceux qui ont la chance de percer ce mystère, c'est une révélation. Mais trois choses ne font aucun doute. L'esprit de ces créatures n'a rien à voir avec le nôtre. Leur corps est doué d'une totale capacité de camouflage et d'imitation. Et ils exigent que nous partions. Chronique du blog Just a Word, signé Nicolas Winter. L'action prend place en Asie du Sud-Est et, plus particulièrement, l'archipel de Can Dao, au Vietnam. Jusque-là sans histoire, plus connu pour ses tortues et ses moines robotiques tibétains que comme terrain de jeu politique et scientifique. L'archipel vient d'être racheté par une multinationale poids lourd du secteur de l'intelligence artificielle, Dianima. Officiellement, pour la préservation des fonds marins. Bien évidemment, une autre raison, bien plus inattendue, se cache derrière cette acquisition. Selon les rumeurs, une drôle d'espèce de monstre se cacherait dans l'épave d'un bateau échoué au milieu de l'archipel. Un monstre avec des tentacules capables de trancher la gorge des imprudents qui s'approchent trop près. Et s'approcher trop près, c'est justement le job de trois personnes engagées par Dianima pour venir inspecter les lieux. D'abord, Atlang Sekseg, chef de la sécurité des lieux et ancienne vétérante, capable de diriger des nuées de drones tueurs grâce à un complexe système d'immersion cyber-gélifié. Ensuite, le docteur Ha Nguyen, scientifique de renommée mondiale et biologiste marine, passionné par les pieuvres, auquel elle a d'ailleurs consacré de nombreuses pages dans son ouvrage intitulé « Comment penser les océans ». Et enfin, Evrim, un androïde ultra-perfectionné, joyau du docteur Minervu Dottir Chan, dirigeante de Dianima. Un être presque irréel et régulièrement menacé pour ce qu'il représente pour la société humaine. Ces trois personnages vont devoir se pencher sur ce que cache l'archipel de Can Dao et vont rapidement découvrir qu'ils ont affaire à une espèce nouvelle de pieuvre extrêmement intelligente. Une intelligence telle qu'elle pourrait tout changer pour les concepteurs d'IA et le reste du monde. Dès lors, Can Dao devient un enjeu pour tous. Ray Naylor tire cette fois sur la corde de la conscience et de la communication, plutôt que sur celle de la mémoire et du souvenir qui reste présente en filigrane. La montagne dans la mer est à la fois une brillante déclinaison sur le thème du premier contact, cette fois sur Terre, avec une espèce que nous connaissons, mais aussi une réflexion sur l'accès à la conscience et sur les impératifs de la communication interespèce. Même si ce cocktail semble bien lourd au premier abord, c'est sans compter le génie narratif et les excellents personnages d'un Ray Naylor au sommet de sa forme. S'il est question d'une chose dans la montagne dans la mer, c'est bien de pieuvres. Ces fascinantes créatures, déjà bien connues dans la réalité pour faire preuve d'une intelligence hors du commun, deviennent ici l'équivalent des espèces intelligentes intergalactiques que l'on peut retrouver dans une foule d'autres romans de science-fiction. Ray Naylor mêle à la fois sa propre fascination pour ces animaux marins, mais pousse ses fantasmes jusqu'à imaginer une évolution parallèle entre eux et nous, leur permettant de fait l'accès à la sapience et à la conscience. Une bonne part du roman va tourner autour de la rencontre entre notre trio, susnommé, et ses pieuvres ultra-intelligentes. Il se pose alors trois questions autour de cette découverte. Comment communiquer avec elles ? Sont-elles vraiment des créatures conscientes comme peuvent l'être l'homme ? Que doit-on faire pour les protéger du monde extérieur ? En tentant de répondre à ces questions, Ray Naylor engage le lecteur dans des réflexions passionnantes sur ce qu'est la communication et ce que cela implique en termes de langage, de symbolique, de schéma corporel et de croyances. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le personnage le plus intéressant de ce roman n'est autre qu'un androïde qui doute de sa propre existence, au sens philosophique du terme. Est-il humain ou est-il autre chose ? Evrim, personnage magnifique et perturbant, est un autre reflet de la question centrale autour de la conscience et de ce que cela implique pour l'humain. Naylor semble fasciné par cette dimension que la science se montre quasiment incapable de décrypter. Ray Naylor en vient à sonder notre rapport au monde, qui n'est rien de plus qu'une retranscription de nos nerfs optiques et de notre encéphale prisonnier d'un crâne un tantinet étriqué. Dès lors, que va-t-il se passer pour des êtres qui ne disposent pas des mêmes interfaces que nous pour décrypter le monde ? De façon sous-jacente, c'est la question de l'IA qui émerge de cette fabuleuse découverte. L'homme, devenu un dieu, a créé des vies artificielles. Certaines sont plus proches de nous, mais en humains, comme Evrim. D'autres sont des versions terrifiantes de nos cerveaux malades, comme l'IA claquemurée d'un bateau de pêche industriel. Si l'on s'éloigne de l'archipel de Kandao, on se retrouve dans deux autres fils narratifs qui vont venir alterner avec le lieu de l'action principale. En périphérie, on retrouve ainsi l'histoire lugubre d'Eiko, prisonnier et esclave d'un bateau de pêche automatisé qui arpente les océans pour capter ce qu'il reste de la faune marine dévastée par l'eau. Mais aussi Rustem, hacker de génie, engagé par une mystérieuse organisation afin d'infiltrer le cerveau d'Evrim et venir perturber ce qu'il se passe sur Kandao. Ces deux personnages secondaires permettent à la fois d'élargir l'histoire imaginée par Ray Naylor pour lui faire quitter l'aspect d'un huis clos, tout en montrant l'horreur de ce que le savoir humain a permis. Les assassinats par des hackers, conférant d'ailleurs un certain aspect cyberpunk au roman, et le retour d'un esclavage industriel sous la houlette d'IA qui ne sont calibrés que pour le profit et rien que pour le profit. Dès lors, que penser de l'influence humaine sur l'intelligence artificielle ? L'horreur complète qui baigne le récit d'Eiko est aussi là pour montrer que la communication n'est pas une fin en soi. Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs et ou la même vision du monde, tout peut très vite tourner au cauchemar. L'infâme et froide IA enfermée dans un conteneur d'acier et qui observe le monde par ses détecteurs n'est d'ailleurs pas sans rappeler le terrible cerveau humain enchâssé dans son crâne en os et qui observe les autres par le biais de ses capteurs sensoriels. Rustem va lui illustrer une prise de conscience et le passage à l'action. Ray Naylor dénonce la cruauté des hommes sur leur environnement, et notamment la surpêche, et sur leurs congénères, mais il tente aussi de provoquer un sursaut moral de cette conscience. On ne peut pas laisser des chiens mourir de faim sur une île, il faut agir avant. Enfin, et c'est peut-être le plus intéressant, l'Américain va filer la métaphore de la pieuvre durant tout son récit, En effet, cet animal a la particularité d'avoir des neurones dans ses bras, donnant une certaine indépendance à ses tentacules, comme si le cerveau central ignorait ce qu'il se passe en périphérie. Ce que l'on retrouve dans notre propre lecture, où pendant très longtemps, les personnages principaux sur Kandao ignorent tout de ce qu'il se passe autour, notamment pour Rustem et Ekyo, qui auront pourtant un rôle à jouer dans ce thriller choral et qui sont intimement liés aux événements centraux du roman. Mieux encore, c'est l'arrivée tardive dans le récit du docteur Minervudotir Chan qui figure le mieux cette métaphore, incapable de savoir ce que les parties périphériques de sa propre entreprise tentaculaire sont et font dans son dos. Mine de rien, Ray Naylor analyse le monde sous une optique d'octopus, et c'est certainement pour cela que La montagne dans la mer est si convaincant dans son approche de quasi-xénobiologie.
Alors, qui a corrompu à l'origine une intelligence artificielle hors du commun d'une puissance largement supérieure à celle du cerveau humain ? Qui aurait cette capacité ?
De toute évidence, il faudrait un programmeur quantique de la plus grande envergure,
c'est-à-dire le meilleur d'entre nous.
En effet.
Qui cela pourrait-il être ?
Chapitre 2. Nous venons de l'océan, et nous ne survivons qu'en conservant de l'eau salée durant toute notre existence, dans notre sang, dans nos cellules. La mer est notre véritable foyer. C'est pourquoi nous trouvons le rivage si apaisant. Nous nous tenons là où les vagues se brisent, comme des exilés qui retournent chez eux. Docteur A. Nguyen, comment pense les océans. Éclairant la pluie agitée par le vent, les feux d'atterrissage du drone hexacoptère glissèrent sur la surface de l'océan. Ils traversèrent une zone de mangroves avant d'illuminer le tarmac de l'aéroport. Il n'y avait aucune lumière sur le sol. Une piste délabrée descendait en pente douce sur un isthme de l'île. Il ne restait qu'une vague trace décolorée du cercle d'atterrissage des hélicoptères. De vieux avions rouillaient le long d'une rangée d'arbres sombres. Le revêtement en plastique du bâtiment principal s'écaillait comme le corps d'un poisson. L'hexacoptère tourna pour entamer sa descente finale. Il oscilla et se posa dans une embardée, de manière efficace, mais sans aucune prévenance pour les passagers humains. Les rotors s'arrêtaient. Les portes s'ouvrirent comme des ailes. Entendit la cacophonie des insectes de la jungle, les cris des macaques qui s'appelaient et se répondaient. Inclinée par le vent, la pluie tombait dans l'habitat. Elle sortit son matériel du compartiment de stockage. Les moteurs du drone couinaient en se refroidissant. Elle aperçut les halos troubles de lampes frontales entre les arbres, son comité d'accueil. Les feux du drone s'éteignirent. A put voir alors la pleine lune, à moitié obscurcie par les traînées de quelques cirrus. Des cumulus planaient plus bas, arrosant les forêts tropicales de l'île. A prit une inspiration, ferma les yeux, les rouvrit, adapta sa vision à l'obscurité. Le système de transmission de l'hexacoptère se mit à crachoter.
Encore en approche. Écartez-vous de l'appareil.
A ramassa ses bagages et courut se mettre à l'abri sous le toit en surplomb du bâtiment principal. Les feux de l'hexacoptère se rallumaient. L'engin quitta le tarmac et s'éloigna avec une vitesse et un angle d'attaque capable d'assommer un passager. Il disparut dans les nuages en quelques secondes. Le véhicule blindé approcha. Un ancien transport de troupes automatisé, avec des hublots renforcés et des pneus pleins surdimensionnés en lit d'abeille. L'intérieur avait été aménagé pour un meilleur confort. L'habitacle capitonné afin de réduire le bruit et les effets des chaos. Le moteur, utilisant une pile à combustible, se révéla assez silencieux, mais la transmission grinçait et répandait de curieuses vibrations dans le compartiment. A réduisit l'intensité de l'éclairage. Les épaisses couches de verre et de polycarbonate du hublot déformaient le paysage extérieur. A regarda la barrière ondulante de la jungle qui empiétait sur la route étroite. Des décombres parsemaient quelques clairières en réduite, des structures qui auraient pu être autrefois des forteresses, ou des moulins, ou des usines, n'importe quoi. La pleine lune projetait des ondes mouvantes à la surface de l'eau. Le véhicule nous pénétra dans la ville, sombre, enserré entre la forêt et l'océan. La pluie dévalait les lourdes toitures de tuiles rouges, des bâtisses coloniales françaises, dont les murs enduits de stuc portaient les traces de l'humidité tropicale. Leurs volets étaient clos, leurs jardins envahis par la mousse et les plantes grimpantes. Ici et là, un bâtiment de style brutaliste interrompait cette unité. Un lycée, le centre administratif du Parti communiste. Des monstres de béton, imbibés de lichen, incolores dans la nuit. Dans la journée, la ville déserte exposerait ses revêtements écaillés au ton pastel. Des ficus, avec leurs troncs encore couverts de peintures blanches délavées, bordaient les rues jonchées de débris végétaux. Des feuilles, des branches abattues, des téguments et des fruits. Le véhicule déboucha sur un boulevard longeant une digue. Pendant un instant, ses phares illuminèrent deux singes qui se battaient comme des gamins à propos de quelques trésors douteux. À la sortie de l'agglomération, les maisons n'étaient plus que des taudis aux toits effondrés, déjà partiellement démantelés par les lianes. La route suivait la côte. Sur la route apparaissait un paysage de rochers parmi lesquels bouillonnaient les vagues de l'océan éclairées par la lune. Les échines noires des îlots de l'archipel émergeaient à peine de l'eau. La crête de l'île principale, couverte d'arbres, s'élevait à droite sur la route. Sur la pente d'une colline, des projecteurs garnissaient le toit d'une pagode, évoquant une présence humaine sur l'île évacuée. Mais l'éclairage de l'édifice était probablement dû à un système municipal automatique. Un signal lumineux à l'intention de touristes qui ne reviendraient jamais. La station de recherche se trouvait sur le site d'un hôtel abandonné. Un bâtiment blanc de 6 étages, construit à l'endroit le plus venteux de l'île, au milieu du maquis, éclairé depuis le sol par des projecteurs. La partie donnant sur la route restait dans l'ombre et ses fenêtres se découpaient en noir. Un chemin d'accès menait à une double clôture de sécurité garnie d'un fil de fer barbelé et acéré. Cette barrière étincelante était neuve, mais l'hôtel avait dû être abandonné longtemps avant l'évacuation de l'île. Des rideaux déchirés flottaient à travers les fenêtres brisées des étages supérieurs. Des rubans de moisissure et d'humidité maculaient la façade. Le transport fit halte devant une double porte. Une silhouette, vêtue d'un poncho imperméable, se détacha de la bâtisse pour venir ouvrir la première porte. Le véhicule avança dans la zone d'attente. La première porte se referma derrière lui. La seconde s'ouvrit. Le blindé pénétra alors dans un espace situé derrière l'édifice. Une terrasse couverte de tessons de tuiles en terre cuite et jonchée de feuilles mortes, tombées des palmiers bordant le terrain de l'hôtel. Des arbres étrangers à cette île. La terrasse était dominée par une piscine surdimensionnée, maintenant remplie d'algues et de mauvaises herbes. C'était sans doute, jadis, un de ces bassins d'eau salée si populaires, permettant aux clients d'imaginer qu'ils nageaient dans l'océan. À l'arrivée du véhicule, quelque chose sursauta à l'intérieur de la piscine et glissa sous l'eau. Deux unités de recherche mobile, de la taille d'un conteneur standard, avaient été déposées près du bassin par un drone de transport. Elles ressemblaient à des cabines de plage industrielles. La porte du transport s'ouvrit en coulissant. Des gouttes de pluie étincelantes s'engouffrèrent à l'intérieur. Le personnage, au poncho, y passa la tête. Un visage féminin, partiellement dissimulé par sa capuche. Des pommettes hautes et larges, des yeux foncés, aux coins relevés. La pluie coulait sur ses joues. Elle cracha une phrase dans une langue que A ne connaissait pas. Une voix de femme atone et autoritaire, comparable à celle qui faisait les annonces dans les gares, fut diffusée par-dessus celle de la gardienne à partir d'un module de traduction accroché à son col, étanche et anti-choc.
Bienvenue dans le poste de recherche avancée de Kandao. Je m'appelle Altan Tsetseg. Je suis votre gardienne protectrice. Je vais prendre vos bagages. Il tombe une pluie de merde.
Ha cligna des yeux. Pendant un instant, elle eut envie de laisser éclater un rire hystérique. Le voyage avait duré longtemps. Altan Tsetseg la dévisagea, prononça une phrase dans sa propre langue, comme pour établir une barrière de consonnes.
Le traducteur ne fornique pas très bien, je crois.
Non, il fonctionne bien. Enfin, presque.
Alors, nous marchons.
La femme mesurait au moins 2 mètres. Sa haute stature dominait A, qui aperçut son arme. Le canon court, pragmatique, se balançait sur son épaule. La pluie s'intensifia. sans les couinements du transport et son épais blindage qui assourdissait les bruits, Ha pouvait entendre le vent souffler dans les palmiers, ainsi que les croassements et les cris des animaux dans la pénombre, les vagues qui s'écrasaient hors de vue sous la terrasse de l'hôtel. Tout cela dans le crépitement de l'averse. Elles marchèrent d'un pas vif, courbées pour éviter les gouttes qui frappaient leur visage. Quelques lampes étaient allumées de ce côté de l'hôtel, au rez-de-chaussée et au premier étage. Une urne en ciment, cassée, maintenait ouverte la porte en verre du hall d'entrée. À l'intérieur, Altan Tzetzeg conduisait à l'autre bout de la salle déserte. Des chaises moisies s'empilaient sur la table. Des divans rembourrés se regroupaient en cercle, comme les vestiges d'une conversation abandonnée depuis longtemps. Au centre du hall, quelques tables avaient été disposées sur un emplacement dégagé, au milieu d'équipements divers. Une cuisine de campagne, une machine à café, du matériel électronique, quelques signes de vie dans cette énorme salle en marbre synthétique. La chambre de A était située à l'étage supérieur. Il s'agissait d'une grande suite qui baignait dans une odeur de renfermé et d'humidité, mais elle était propre. Altan Tzetzeg déposa les bagages près de la porte et se retira. Ha souhaitait prendre une douche depuis des heures. Au lieu de cela, elle s'écroula sur le lit, sans même se donner la peine de se déshabiller. Au moins, quelqu'un avait mis des draps propres. Elle rêva encore de la sèche. Chapitre 18. Chaque pieuvre que nous rencontrons a survécu à des aventures et des épreuves que nous ne parvenons pas à imaginer. Le céphalopode, qui a vécu jusqu'à l'âge adulte malgré les dangers de la mer, sera un Ulysse, un homme aux mille ruses, un expert héroïque et astucieux de la guerre et de l'évasion. Combien de bras aura-t-il perdu? Qui auront repoussé? Combien de formes aura-t-il adopté pour se dissimuler ou traquer une proie? À combien de trépas aura-t-il échappé? Et que sera-t-il de nous, ces héros des mers? S'est-il blotti dans un casque de scaphandre du 19e siècle, perdu par nos premiers explorateurs des profondeurs? S'est-il dégagé d'un filet de pêche? Nous a-t-il épié de sa cachette quand nous marchions sur les plages? A-t-il manipulé des crânes dans des sous-marins engloutis? Que serons-nous pour lui? Des dieux? Des monstres? Ou rien de significatif? Docteur A. Nguyen, comment pensent les océans? Il faisait nuit quand A remonta de la plage jusqu'à l'hôtel. Elle était fatiguée, les bras couverts de sable jusqu'au cou. Cependant, elle avait aimé travailler de ses mains, sortir de sa propre tête, oublier les pensées qui l'écrasaient constamment, les questions sans réponse. Elle s'était sentie isolée depuis son arrivée. L'hélicoptère qui descendait sous la pluie, l'obscurité de l'île abandonnée, lorsqu'elle repensait à cette première nuit, elle se remémorait les singes qui se battaient pour quelque chose sur la digue. Un souvenir qui se mêlait maintenant aux commentaires des Vrim. Ils vous ressemblent beaucoup. Mais comme des créatures corrompues, une tentative ratée. Une tentative ratée. Et Vrim en était-il une? Les interviews auxquelles l'androïde avait participé quand il avait été présenté au monde avaient ressemblé à des tests de Turing complexes durant lesquels on le bombardait continuellement de questions pour démontrer qu'il était humain. Ou non. Mais ce n'était pas cela. Pendant ces tests, l'androïde démontrait qu'il pouvait passer pour un être humain. Mais c'était bien le sujet, n'est-ce pas? L'entourloupe, l'humanoïde, n'avait jamais pu démontrer qu'il était humain ou conscient, mais seulement qu'il avait l'apparence d'un être humain, qu'il pouvait créer un fac-similé de la conscience. En vérité, le test de Turing, comme tous les tests sur la conscience, était incapable de prouver quoi que ce soit, sinon que la simulation était assez complexe pour être confondue avec un humain. Mais qu'est-ce que ça signifiait? On avait exhibé Evrim, on l'avait ausculté, examiné, critiqué.
humain ou pas. Pendant un moment, l'androïde représentait probablement le sujet le plus débattu dans le monde, avant d'être rejeté. Pas à cause de son infériorité, mais parce qu'il avait passé tous les tests. A ne parvenait pas à déterminer le moment précis, mais la couverture médiatique avait changé. Dans les graphiques présentés par les flux, dans les parties des interviews sur lesquelles l'accent était mis, une caméra qui s'attardait sur une expression d'Evrim un peu décalée, un gros plan dans lequel Evrim paraissait menaçant, une citation tirée de son contexte, des allusions, des insinuations. Après l'excitation initiale provoquée par l'idée que D'Anima avait finalement réussi à recréer la complexité émergente de l'esprit humain, mais les gens s'étaient détournés d'Evrim. Pourquoi ? Certaines critiques étaient religieuses, d'autres éthiques. Et il y avait la violence. Mais il y avait surtout les lois. Les lois qui faisaient qu'Evrim et de tous ses éventuels successeurs, des êtres dont la présence était illégale dans la plupart des structures politiques mondiales, y compris tous les pays et les protectorats placés sous l'autorité des Nations Unies. Et maintenant, Evrim se trouvait sur cette île, proscrit, abandonné. Quelles ne fussent les justifications de son bannissement et les raisons pour lesquelles l'androïde dirigeait ce projet, un fait demeurait. Evrim n'avait aucun autre endroit où aller. Assis seul dans le hall, le visage éclairé par l'écran d'un terminal, l'humanoïde était entouré par tout le matériel technologique bricolé par Altan Tsetseg. Et A imagina clairement Pinocchio sur l'étagère, rangé parmi les poupées inertes qui étaient ses ancêtres, suspendu entre le monde de la vie et celui de l'inanimé, sujet et objet se débattant pour devenir réel. Evrim leva les yeux à l'arrivée de A.
Je n'arrête pas de penser au meurtre du garde. J'aimerais Client.
À propos de quoi ? Elle tira une chatte. En voyant l'androïde assis là, tout seul, elle s'était sentie écrasée par un sentiment d'empathie. Si seule. Elle approcha machinalement, comme pour lui dire « Je ne suis pas apeurée, ni dégoûtée. Je peux rester près de toi, sans broncher. Tu vois ?» Elle s'attabla si près de lui que leurs épaules se touchèrent quand elle se pencha pour voir ce qu'il examinait sur le terminal. C'est Evrim qui tressaillit. Impossible de dire s'il s'agissait de surprise, de dégoût ou d'autre chose. L'androïde s'écarta, puis parut se ressaisir et s'inclina vers A, acceptant la proximité. L'écran était divisé en 12 parties, chacune affichant la vidéo d'un céphalopode. Les animaux appartenaient à des espèces différentes, mais chaque film montrait des interactions avec des humains. Dans une des fenêtres, une pieuvre glissait sur le pont d'un navire et se faufilait dans une brèche du plat-bord pour s'échapper. Dans un autre, un octopode se cachait au fond d'un bocal qu'un pêcheur grec avait emporté sur son petit bateau. Et ainsi de suite. Dans chaque vidéo, une rencontre. Et toutes ces rencontres révélaient de l'hostilité contre les pieuvres, des menaces. Les animaux tentaient d'échapper à leurs ravisseurs. Attachés à la mer, ils s'efforçaient de fuir.
« J'essayais d'imaginer comment les pieuvres nous voient. »
dit Evrim.
« Mais je pensais au meurtre. Il manque des éléments dans cette histoire. »«
Beaucoup d'éléments, » confirma A.
« Oui, beaucoup. Mais surtout la raison de cette attaque. » J'ai d'abord pensé qu'il avait dû se passer quelque chose que nous ignorons. Quelque chose qui a poussé la créature à se sentir menacée. J'en étais convaincu. Mais ensuite, je me suis posé la question. Que font les humains pour qu'une pieuvre ne se sente pas menacée? Et la réponse est... pratiquement rien. C'était un animal extraordinairement intelligent, même avant de développer une communication symbolique. Une histoire de ses contacts avec l'humanité est remplie de violences et de menaces.
Vous pensez donc qu'elle a développé une communication symbolique ?
En effet. Il y a déjà longtemps qu'elle s'est envoyée des outils. Nous constatons maintenant que ce n'est pas tout. Il se pourrait qu'elle en fabrique aussi. Mais ce qui m'inquiète, c'est la relation entre l'humain et la pieuvre. De son point de vue, c'était déjà un animal exceptionnel avant le développement d'un langage et de la fabrication d'outils. Un maître de la survie et de l'adaptation dans la mer. constamment menacé. Ce type exige une réponse fluide et continue. Il s'agit d'un chasseur-cueilleur polymorphe, maîtrisant parfaitement son environnement, un expert du camouflage et de la diversion. C'est une créature qui échappe à la mort tous les jours, qui tue tous les jours pour survivre.
Dans mon livre, je l'ai comparé à Ulysse, dit A. On l'appelait l'homme aux mille ruses, mais c'est la meilleure analogie que j'ai trouvée. Ce sont les héros de la mer, les rescapés d'un millier de défis, d'un millier d'épreuves.
Mais...
Évry me regarda de nouveau le terminal, sur l'écran duquel les pieuvres affrontaient les humains dans une douzaine de fenêtres, se battant pour survie.
Mais c'est tout à fait ce que je pense. Ce sont les héros de la mer. Et qui sommes-nous? Nous sommes leur némésis. Nous sommes l'ennemi. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur la plage? Quand Alpan Tsetseg a tué ces gens sur le navire piloté par Mipa, c'était une nécessité. Une évidence pour protéger cet endroit. Voilà de quoi il s'agit. Je crois que ces meurtres constituaient simplement une évidence. Je crois que la pieuvre a pu tuer le garde à cause d'une chose qui a fait. Mais pas nécessairement. Elle a pu le tuer parce qu'il se trouvait sur son chemin et qu'il l'a surprise ou irrité parce qu'il a fait quelque chose qu'elle n'a pas apprécié. Quelque chose de menaçant. De même que ces hommes d'équipage sont morts parce qu'ils faisaient partie de quelque chose qui menaçait notre travail.
Ah, se souvint de la mine imperturbable de l'androïde quand il avait enterré un cadavre dans ce trou creusé sur la plage. Le pied d'Evrim sur le torse de l'homme. Une simple poussée et tout était terminé. Une évidence. À cet instant, une alarme se déclencha. Elle était différente de l'autre alarme. C'était un klaxon accompagné d'un éclat de lumière clignotant au plafond. Le périmètre marin ? Altan Tsakseg entra dans la salle. Vêtue de noir, un fusil à crosse courte en bandoulière. Parfaitement silencieuse, elle se dirigea vers la porte de l'hôtel. Elle portait un casque et une douzaine de scènes flottaient devant son visage. Ah, compris qu'il s'agissait de transmissions envoyées par des caméras de surveillance.
Bon,
dit Evry.
Cette alarme signale une intrusion dans le périmètre terrestre. Notre périmètre.
Altan Tsakseg se tourna vers les deux autres.
Restez là. Sûrement un mauvais fonctionnement. Je vais.
Non. Dis. Ah. N'allez pas là-bas. Et n'utilisez surtout pas votre drone.
C'est pénétration du périmètre. Possible menace.
Non. Coupez cette alarme. Altan Tsakseg agita un doigt de son gant de contrôle et le klaxon s'arrêta. La lumière s'éteignit également. Par la porte ouverte, donnant sur la terrasse et l'obscurité, ils pouvaient entendre le sifflement lointain des vagues. Ils restèrent immobiles. Altan Tsakseg examina les écrans virtuels qui flottaient dans son champ de vision. Ah, était toute raide, les muscles tendus, le visage tourné vers l'océan, bien qu'elle fût incapable de voir quoi que ce soit par la fenêtre de l'hôtel, à part son propre reflet et celui d'Evrim sur la vitre. Comme un étrange jumeau translucide.
Vous distinguez quelque chose ?
Demanda l'androïde à Altan Tsakseg.
Il y a le vent. Mouvement dans les arbres. Pas utile. Beaucoup de choses bougent. Brèche dans la zone de sable. Trois drones à cette position. Signature thermique imprécise. Pas de cible solide. Maintenant, rien sur les caméras. Je pensais à bateau. Humain en vêtements mouillés. Non. Mais... Là, mouvement sur la plage. Je vais.
Ah, fut assaillie par une poussée d'adrénaline. Eut l'impression d'être plus vivante à cet instant. Comme si tout son corps recueillait la sensation présente et la gardait pour plus tard. Ça commence. Non, dit Ah, restez ici. Altan Tsakseg lui lança un regard irrité et pencha la tête de côté.
Infrarouge, nul. Rien, je pense. Morceau d'une épave, du bois dans les vagues. Désolé pour dérangement.
Altan Tsakseg revenait vers le hall quand l'alarme se déclencha une fois de plus. Elle s'arrêta et fit demi-tour.
Je dois inspecter la présence.
Ah, leva une main. Non, arrêtez, coupez l'alarme. Agitant les doigts, Altan Tsakseg fit taire le klaxon.
Vous savez quoi ?
Grogna Altan Tsakseg.
Quel jeu vous jouez ?
Ce n'est pas un jeu, c'est un malheur. Vous l'avez appâté avec le submersible.
Oui, répondit A. Et maintenant, Tout ce que je demande, c'est que nous restions ici, pendant un moment. Un quart d'heure. Juste 15 minutes.
Et vous pensez quoi ?
Marmona Altan Tsekseg.
Il traverse simplement la porte ?
Ah, dévisagea Altan Tsekseg, son index posé près du ponté de sa vilaine petite machine à tuer, accrochée à la bandoulière. J'espère que non. Chapitre 19. L'évolution a développé des esprits avancés, pas une fois, mais au moins deux fois, en les offrant non seulement aux mammifères et à leurs familles, mais aussi aux céphalopodes, et en particulier à l'animal qui se situe au sommet de l'intelligence marine, la pieuvre. C'est un animal si différent de l'humain que la plupart des extraterrestres que nous imaginons sont plus proches de nous. Mais il est impossible de nier leur sentience. Je crois que les premières véritables créatures étrangères que nous rencontrerons nous salueront en émergeant de l'océan. Docteur A. Nguyen, comment pensent les océans ? A tenta de convaincre Altan Tsekseg de ne pas descendre sur la plage avec elle, mais la responsable de la sécurité ne voulait rien lâcher. Et finalement, tous se mirent en route. A en tête, suivi d'Altan Tsekseg, tandis qu'Evrim fermait la marche. Sur les instances de la scientifique, Altan Tsekseg laissa son arme à l'hôtel. Cependant, Ha savait que quelque part, dans les airs, au moins un drone suivait leur progression. Silencieux, mais capable de faire autant de dégâts que le fusil, sinon davantage. De la terrasse de l'hôtel, les chemins bétonnés partaient vers la droite et vers la gauche, serpentant à travers des palmiers miniatures et d'autres curieuses plantes tropicales dont aucune n'était indigène. Le groupe descendit le chemin de droite qui menait directement à la plage. L'aménagement paysager de l'île représentait une fausse jungle paradisiaque, un parc d'attractions balnéaires qui ne ressemblait à aucune île réelle. Les arbres et les buissons étaient régulièrement espacés, composés de gentilles espèces inoffensives et sans épines. Néanmoins, depuis l'abandon des lieux, le temps avait fait son œuvre. Le chemin était envahi par les lianes, les herbes folles et les feuilles mortes. L'éclairage de leurs lampes frontales projetait tout un réseau d'ombres sur cette jungle artificielle, qui gagnait en authenticité sous les exigences de la nature. Il y avait ici 1 million d'endroits où se cacher. Quiconque montait de la plage pouvait arriver à l'hôtel avant d'être repéré. Ah ! Éprouva quand même de la reconnaissance pour les appareils de patrouille d'Altan Tsekseg. Comme si elle l'avait entendu, cette dernière lança.
Robot ne permet pas d'embuscade auprès d'hôtel. Maintenant, pensez peut-être encore. Ou trop tard pour nous.
Mais les détecteurs de mouvement et les capteurs infrarouges étaient de piètres gardiens contre une créature à sang-froid qui passait justement son existence à tromper des détecteurs de mouvement, ceux de la mer. Prédateur et proie, capable de réactions fulgurantes. Si elle voulait manger, elle devait leurrer à tout moment ses plus dangereux ennemis, trouver des angles d'attaque, vaincre des systèmes conçus pour contrarier ses espoirs, modifier son aspect et sa démarche, s'adapter à toutes les choses qui l'entouraient, l'une après l'autre. Ah, se souvint d'un film documentaire qui montrait un poulpe chassant un crabe dans l'eau, tout près de la plage, au bord d'un récif corallien qui surmontait un bloc rocheux s'enfonçant dans la mer, pistant le crabe à partir d'une zone sableuse ne dépassant pas 30 mètres. La pieuvre se changeait en sable, en algues, en pierres, en poissons, en un groupe de bernacles, en corail. Le crustacé n'avait aucune chance. Ses talents de chasseur, nécessaires pour se nourrir sous la surface, n'étaient rien comparé à ceux qu'il fallait pour rester en vie. Dans ce monde affamé, le céphalopode représentait un bloc mou de protéines, sans carapace et facile à digérer. Il survivait grâce à son intelligence et à sa capacité de modifier son aspect. Grâce à la ruse, la dissimulation, la sournoiserie, la créativité. Tout ce qui entourait A rampait et remuait, prêt à bondir ou fuir. Le groupe sortit de la fausse jungle, descendit les marches découpées dans un mur creusé par l'érosion et déboucha sur la plage. Celle-ci était également artificielle. Jadis, seuls des galets couvraient la rive en demi-lune, balayée par les vents. Les promoteurs avaient construit des digues pour allonger les bords de la crique, essayant de la protéger des attaques de l'érosion éolienne et des marées de ce côté de l'île, apportant de multiples camions de sable afin de se conformer à l'idée touristique de ce que pareil lieu devait être. Mais les vents continuaient de râper la baie artificielle. Bientôt, avec le remplacement saisonnier, le sable serait emporté par les vagues et la plage à nouveau couverte de galets. Les lampes frontales couraient sur le sable et projetaient devant eux leurs ombres énormes et monstrueuses. A avait placé le symbole près de la ligne de la laisse, à 2 mètres du sable humide qui marquait l'avancée de la mer. Cela lui avait demandé plusieurs heures de travail, consciencieux. Elle l'avait confectionné avec des algues, des pierres foncées et du bois flotté. Il faisait probablement 2 fois la taille d'une personne. Il était précis, avec des proportions exactes. Ses bords se découpaient nettement dans le sable. Les 3 pointes étaient orientées vers l'autel, la partie convexe vers l'océan. Evrim et Altan Sekseg l'éclairèrent. Puis l'androïde désigna le symbole du doigt et regarda A qui hocha la tête. L'autre symbole était plus loin sur la plage. La petite troupe s'en approcha. Altan Sekseg en tête, sa lampe frontale balaya la limite des embruns, la surface des vagues, le sable de la baie. Rien. Ce symbole était construit grossièrement, hâtivement. Les bords étaient imprécis, par endroits, parce que des éléments avaient été mal placés, mais sa forme restait assez claire. La flèche pointait vers l'intérieur des terres, vers le haut de la plage, directement vers l'autel. Ce symbole était lui aussi essentiellement constitué de rochers plus sombres, d'algues et de bois. Mais il y avait toutefois d'autres objets. Ha se pencha. On voyait des morceaux du drone sous-marin envoyé dans l'épave, celui qui avait été détruit. Le submersible avait été démantelé. Des parties de sa coque et des instruments internes étaient dispersés à l'intérieur du symbole. On y trouvait d'autres choses encore. Un masque de plongée, une bouteille de scaphandre, un lance-harpon, un gant et... Ah, on faillit ne pas le reconnaître tout de suite. Il était recouvert de bernacles et de vert-de-gris, ce qui le distinguait peu des autres choses dans la lumière de la lune, décroissante depuis plusieurs jours, mais encore bien lumineuse. De tous les objets, c'était celui qui avait été posé avec le plus de soin, près de la pointe de la flèche qui visait l'autel. Il regardait le ciel sans le voir. Un crâne humain. Complet, avec toutes ses dents et sa mâchoire inférieure ouverte, comme s'il admirait, bouche bée, la beauté du firmament. Evrim et Altan Sekseg restèrent un peu à l'écart de Ha, à cette distance que l'on garde de quelqu'un qui se penche sur le cercueil d'un proche pendant des funérailles. Ha resta là un long moment sans bouger, puis elle fit lentement le tour du symbole. « Nous devons photographier ça. » dit-elle, en conservant une voix calme.
« J'ai déjà pris beaucoup de photos de hiéroglyphes. »
Altan Sekseg pointa le doigt vers le ciel. « Je veux dire, des photographies détaillées. Il nous faut... » Ha ouvrit la bouche quand les 5 drones descendirent. « Ressaisis-toi, ils ne peuvent pas voler. » Les appareils approchèrent en piqué, puis s'arrêtèrent subitement à une hauteur qui dépassait un peu celle d'un être humain. La main d'Altan Sekseg dressée comme celle d'un sorcier dans un conte pour enfants, utilisa un complexe langage de signes qui fit danser les drones autour du symbole. Les fit s'incliner, s'immobiliser, accomplir des petits arcs de cercle les uns autour des autres. Ha recula vers Evrim, s'écartant de la danse tourbillonnante.
C'est votre moment de triomphe. Il n'y a plus aucun doute, maintenant. Nous tenons la preuve. Une justification pour continuer notre travail. C'est un bébé.
Lui dit ce dernier. Ha ne dit rien. Son regard suivit les acrobaties des drones, se posa sur le symbole, puis revint vers les drones. À cette distance, le crâne était une sphère de jade, au milieu des autres objets employés pour créer le symbole. Comme un ballon taché par les intempéries et ramené sur la plage. Un artefact anodin. Mais il n'a rien d'anodin. Finalement, elle parla. Vous ne le voyez pas ?
Si, je le vois. Mais il pourrait signifier beaucoup de choses.
Ça ne ressemble pas à un début. Elle se retourna et s'éloigna.
Où allez-vous ?
Je rentre à l'hôtel. J'ai besoin de réfléchir, et je ne peux pas le faire ici. C'est maintenant la fin de cette émission de Bouquin Bouquine, avec cet excellent roman futuriste et particulièrement immersif, La montagne sous la mer, de Ray Naylor aux éditions du Bélial. Littéralement, une plongée dans une ambiance SF et techno-scientifique, cyberpunk et philosophique. C'est déroutant et aventureux, on est surpris, étonné et happé dans ce sens où les repères habituels de la SF sont bien présents, mais jamais là où on les attend. Pas d'extraterrestres, ni de lointaines planètes, mais une île du Vietnam et un premier contact avec des pieuvres. Le nom des personnages, loin des poncifs habituels. L'androïde est un homme et la super soldat une femme. Les femmes qui, dans ce récit, sont toutes au premier plan et ont le premier rôle. Ça change, et tant mieux. Pas de grands et épiques affrontements intergalactiques, mais des luttes internes et des questionnements métaphysiques sur la conscience, la nature de l'existence et le sens qu'on le lui donne. Pas de super méchants, mais l'excroissance tyrannique de la technologie au service d'un capitalisme despotique, incarné par un trust, une multinationale opaque, dit Anima. Et l'asservissement des travailleurs par le joug des IA uniquement mis en place pour générer des profits et esclavagiser tout en détruisant l'environnement. Pas de résistance ou d'armée rebelle, mais des hackers spécialistes des connectomes, connexion neuronale d'un cerveau-machine, biomimétisme appliqué aux IA. Nous voilà superbement déboussolés et, effectivement, chahutés dans nos acquis, complètement pris dans les filets de ce récit de qualité littéraire et imaginaire indéniable et jubilatoire. Un livre à découvrir sans hésitation. Je remercie encore Nicolas Winter, l'auteur du blog Just a Word, pour notre aimable échange. J'espère vous avoir diverti et vous avoir immergé dans cette histoire. J'ai un peu été pris par le temps et j'espère quand même vous avoir convaincu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à laisser vos impressions sur les réseaux sociaux ou en commentaire sur les plateformes d'écoute. Rendez-vous en décembre. D'ici là, bon courage à toutes et tous. Bonne lecture, des livres sous les sapins. Ciao. Bye.